Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
En cette lumière insolente du mois de juillet à Avignon, pendant le festival OFF, on en vient à rêver de fraîcheur et d'obscurité. Eh bien, l'obscurité, c'est un peu le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec le spectacle dont j'ai envie de vous parler dans cette émission sur Osmose Radio, chers amis, puisqu'il s'agit d'adapter Le Voyage au bout de la nuit. Mais là, c'est plutôt l'obscurité de l'âme humaine qu'on va explorer. Avec vous, Philippe Sireuil, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez, vous avez créé ce projet au sein de la compagnie La Servante. En fait, il s'agit d'une coproduction, mais vous nous en parlerez un petit peu plus en détail. Avec ce spectacle que vous jouez chaque jour à l'Épicène. Alors c'est un théâtre qui se situe au niveau de la Porte Limbert. D'un côté, vous avez la rue du 58e Régiment d'Infanterie et le théâtre L'Arrache-Cœur quand vous allez vers la Porte Thiers. Et de l'autre côté, quand vous allez vers la Porte Magnanin, vous avez une autre rue qui ronge les remparts. Et un peu plus loin, à deux pas, vous avez ce théâtre L'Épicène, dans lequel on peut retrouver à 16h20 Le Voyage au bout de la nuit, cette adaptation du fameux test de Louis Ferdinand Céline que vous avez adapté sur scène dans une pièce de théâtre. Alors une coproduction, disais-je, entre la Belgique, dont vous êtes originaire, et la Suisse.
C'est exact, oui, vous avez à peu près résumé tout. Le spectacle a été créé à Ferney-Voltaire en France, à côté de Genève, en 2014. Il avait été fait pour 4 ou 5 représentations et le développement de sa carrière tient au fait que le directeur de la Comédie de Genève de l'époque, Hervé Loachmoll, est venu voir le spectacle et qu'il l'a trouvé remarquable et nous a proposé d'en reprendre la production, ce qui fait que depuis maintenant quasiment 4 années, nous tournons ce spectacle aussi bien en France qu'en Suisse et en Belgique. Alors, petit correctif, ce n'est pas une adaptation de l'ensemble du roman Voyage au bout de la nuit, puisque nous nous sommes attachés à sa première partie, celle où Bardamu, qui est une sorte de clone fictionnel de Louis-Ferdinand Céline, est confronté aux horreurs et à la boucherie de la guerre, et nommément celle de 14-18. Le travail d'adaptation consiste en fait non pas à réécrire Céline, au nom de quoi pourrait-on le faire, mais plutôt à élaguer au fur et à mesure du travail de répétition qu'on fait avec l'acteur, ici en l'occurrence une actrice, de telle façon à obtenir une durée de spectacle qui tourne autour de leur quart. Voilà, donc c'est une adaptation dans le sens où il s'agit d'une réduction, mais ce sont les mots de Céline et rien que les mots de Céline.
Très bien, oui, bien sûr, vous n'avez pas pris de liberté avec le texte. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, encore que certains ne s'en priveraient pas, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément l'initiative la plus heureuse. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas au bout de la nuit, vous arrêtez à minuit, mais déjà, vu la puissance du texte, j'imagine que vous avez de quoi faire. Et la Grande Guerre, Monsieur Destouches, puisque c'était le nom de Louis-Ferdinand Céline dans le civil, son état civil, eh bien, l'avait fait en tant qu'infirmier, et donc il avait vu toutes les horreurs dans les tranchées que beaucoup d'autres avaient vues à l'époque, hein, mais lui, on a fait la matière aussi de ses romans.
Si je puis me permettre, pas uniquement en tant qu'infirmier, il a été brigadier de cavalerie et donc il a combattu et il a non seulement combattu mais il a été blessé et c'est ce qui a fait qu'il a pu échapper à l'enfer de cette guerre puisque à peu près 3 mois après qu'elle ait commencé, il est victime d'un tir qui va lui amocher le bras droit. Il refusera d'ailleurs qu'on l'ampute et qu'on tente au contraire de le guérir, ce qu'il adviendra, mais Céline, l'homme, gardera toute sa vie des séquelles. Donc il a connu au plus près de lui, si je puis dire, au plus profond de lui, l'horreur de la guerre, l'assaut, le bruit des obus, les morts qu'on voit tomber, les morts qu'on assassine soi-même. C'est sûr que quand le roman sort en 1932, c'est-à-dire une douzaine, enfin peut-être un peu plus, 13, 14 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un écrivain plein, si je puis dire, des horreurs qu'il a traversées, qu'il va écrire ce roman, qui reste à mes yeux aujourd'hui, en tout cas dans sa première partie, un plaidoyer virulent contre l'absurdité, la cruauté de la guerre, de toutes les guerres. C'est un champ pacifique, enfin, c'est un appel à la raison humaine contre la déraison guerrière.
Et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec un spectacle que j'ai chroniqué l'an dernier. Il s'agit d'un auteur plus discret, moins connu, qui s'appelait Joé Bousquet. Et un homme de théâtre, lui, avait adapté aussi les œuvres de Joé Bousquet au théâtre, dans une mise en scène très intimiste. Et pour ma part, ça a été l'occasion de découvrir cet auteur-là, mais qui, lui, a été blessé à la colonne vertébrale et a passé le reste de sa vie alité. Et lui, contrairement à, après, autant de différentes réactions que d'hommes qui ont vécu ces horreurs. Il n'est certainement pas dans notre propos de les juger, bien entendu. Mais lui, Joé Bousquet, avait besoin de souligner l'héroïsme, puisqu'il était lieutenant des hommes qu'il avait eus sous son commandement, de ceux qu'il avait tirés au péril de leur vie pour le ramener vers l'arrière et l'infirmerie, et quand bien même il en resterait estropié. Et donc, il se raccrochait à cette idée-là, et lui, pour lui, il soulignait pas forcément son héroïsme à lui, et puisqu'après, il a été un auteur surréaliste, etc., il s'est engagé dans autre chose, mais l'héroïsme de ceux qu'il avait commandé, ça l'aidait on sent que ça l'aidait à tenir, et on peut pas lui en vouloir pour ça. Le monsieur Destouches, lui, a une démarche un petit peu plus accusatoire, en quelque sorte. Et beaucoup, à l'époque, ont voulu faire rendre la guerre illégale. Je pense à Aristide Briand, notamment. Et donc, voilà, toute cette énergie de l'après-guerre, une bonne partie de l'énergie antimilitariste de cet entre-deux-guerres, puisque malheureusement, il y en a eu d'autres après, eh bien, s'incarne en partie dans au moins la première moitié du roman Voyage au bout de la nuit, dont il a été dit à l'époque, dans une critique de 1932, le livre de Céline est un long cri qui n'a pas fini d'ébranler les hommes. Alors, a priori, ça semble une critique emphatique, telle qu'on peut en voir dans les critiques littéraires ou les revues littéraires. Et pourtant, vous la citez en exergue du tract que vous distribuez dans les rues d'Avignon. Donc, je pense que pour vous, elle est pleine de sens.
Oui, parce qu'elle dit tout simplement que ce que Céline écrit en 1932 reste, hélas, tristement d'actualité aujourd'hui. Tous les jours, les images d'actualité qui nous viennent notamment du Moyen-Orient et particulièrement de la Syrie, atteste tout simplement que la guerre, le commerce des armes qui la sous-tend, la guerre reste la plus mauvaise des inventions humaines. Les animaux ne se font pas la guerre, les êtres humains, oui. Et en ce sens-là, la phrase de Charles Plisnier, qui était un contemporain de Céline, lui-même grand écrivain belge, me paraît raisonner, et contrairement à ce que vous dites, pour moi sans emphatisme, en fait, ça reste une belle définition d'une œuvre qui, par ailleurs, sent le souffre du fait des déviations idéologiques insupportables qu'a pu commettre Céline par la suite, notamment ses propos et ses écrits antisémites qui sont inexcusables. Mais Céline reste un immense monument de la littérature française. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une langue française d'avant Voyage au bout de la nuit et une langue française d'après Voyage au bout de la nuit. Nous ne sommes plus tout à fait au même endroit. Des écrivains comme Philippe Solers, notamment, ont rendu à multiples reprises hommage à la qualité littéraire de l'écrivain Céline, tout en contestant, à juste titre, ses dérives antisémites. Ça n'a rien à voir. En fait, je lisais récemment un livre de Christiane Taubira.
Fameuse ministre d'origine guyanaise.
Sur la nécessité, l'importance de la littérature, sur le fait que la littérature l'avait aidé à se construire en tant que femme, en tant que citoyenne, et dans lequel elle reconnaissait clairement qu'il fallait pouvoir arriver à faire le distinguo entre le style d'un écrivain et les comportements philosophiques et idéologiques de la même personne. On est face à Céline dans ce cas-là. Il a cristallisé, en fait, toute une série de critiques, alors que d'autres ont y échappé. Je n'excuse rien, moi, ici, en disant ça.
Mais c'est un personnage sulfureux qui déclenche sinon des controverses, au moins des polémiques. Vous avez raison d'aborder ce sujet. Des gens pourraient être un petit peu révulsés par le fait qu'un texte de Céline soit adapté au sein du Festival Off, qui se caractérise notamment par sa grande diversité. Mais en fait, ça a du sens, puisqu'il s'agit d'un grand texte, tout simplement, de la langue française, point barre.
Point barre,
c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, point barre, comme vous dites, oui, de manière un peu crue, mais c'est vrai, oui, point barre.
Mais écoutez, excusez-moi, la crudité du langage est aussi, l'essence.
Non, mais vous ne vous excusez pas, j'apprécie. C'est une langue absolument prodigieuse et magnifique. Que dire d'autre ? Voilà, la langue de Claudel l'est tout autant, et je n'aime pas trop, comment dire, l'écrivain catholique qu'il fut. Mais il laisse des traces qui font encore aujourd'hui sens, émotion, et qui nous captent tout simplement.
Voilà, à la seule réserve que j'apporterai à votre démonstration, à laquelle je souscris néanmoins, c'est que bon, il y a quand même des auteurs plus intéressants que Philippe Sollers qui se sont intéressés à Céline. Je pense notamment évidemment au travail de Fabrice Lucchini, qui pour ma part me l'a fait découvrir quand j'étais un vieil ado. Et c'est comme ça que je suis venu à cet auteur. En fait, j'aurais mis sans doute beaucoup plus de temps à le découvrir sans lui. Et Fabrice Lucchini m'a permis, grâce à ses interprétations, ses lectures en fait sur scène, puisque lui, contrairement à vous, ne faisait pas œuvre de théâtre, il faisait des lectures sur scène. Mais étant un acteur prodigieux, il a réussi à véhiculer les émotions que lui-même avait ressenties. Et donc, pour ma part, c'est comme ça que j'ai découvert l'écriture de Louis-Ferdinand Céline. Alors, excusez-moi de cette question, c'est pas du tout pour vous mettre en porte-à-faux, mais est-ce que vous-même, ça a été un élément qui vous a influencé pour la mise en scène, ce travail de Fabrice Lucchini ?
Du tout, je ne l'ai jamais vu.
D'accord.
Ni entendu. Je parle de Lucchini dans ce travail-là. J'ai eu l'occasion de le découvrir et de l'apprécier et au théâtre et au cinéma. Je l'ai même reçu il y a très longtemps maintenant dans le théâtre que je co-dirigeais à Bruxelles qui s'appelait le Théâtre Varia. Donc je connais bien, entre guillemets, l'acteur, mais je ne l'ai jamais entendu dans Voyage au bout de la nuit. Et quand j'ai commencé à travailler ce projet, je n'ai surtout pas voulu l'écouter pour ne pas... comment dire, être le produit d'influence. On est tous le produit d'influence. C'est Bertolt Brecht qui disait que l'entreprise artistique est une œuvre de cannibalisation permanente. Il n'a pas tort. Et moi, je ne voulais pas tout simplement être influencé. Parce que d'abord, Lucchini, la qualité artistique de l'interprète est d'une grande puissance. Et voilà, je n'avais pas du tout... envie de pouvoir me dire que j'allais être orienté par la lecture qu'en faisait Fabrice Lucchini.
D'accord, il ne faut pas forcément se laisser influencer, mais comme vous avez l'honnêteté de le reconnaître, on est tous le produit d'influences qu'on a tellement intériorisées qu'on ne se rend plus forcément compte à quel point elles nous ont touchés. Et pour ma part, vous êtes honnête, je vais l'être aussi, et même si je ne suis pas fier de ce que je vais avouer, pour ma part, Voyage au bout de la nuit, ça fait 12 ans que des collègues, que des gens divers et variés, de tous bords politiques, de différents milieux culturels, me disent: il faut vraiment que tu lises ce bouquin, pour moi ça a été une révélation. Alors on m'a dit la même chose avec L'étranger, et j'ai fini par le lire, L'étranger d'Albert Camus. Et Voyage au bout de la nuit, ça fait 10-12 ans qu'il est dans ma bibliothèque, que dans la pile des livres à lire un jour, et je reconnais que je recule. Ça fait 12 ans que je recule les sciences, parce que c'est un texte dont les témoignages dont j'ai entendu parler par des gens qui l'avaient lu étaient tellement puissants, tellement forts, ça leur avait, pardonnez-moi, retourner les tripes. C'était vraiment à ce niveau-là. Et moi, ça me fait peur. Voilà, ce texte me fait peur de fait. Pour oser une comparaison un petit peu peut-être audacieuse, je dirais que Voyage au bout de la nuit est à la littérature pour moi ce que Silent Hill 2 est aux jeux vidéo. C'est-à-dire que ce sont des expériences tellement émotionnelles fortes dans des médias très différents, la littérature, le jeu vidéo, qu'en fait, il faut vraiment se préparer à les aborder et savoir que notre vie sera... différentes après, il y aura un avant, un après. Alors la comparaison touchera peut-être les uns les autres ou non, peu importe, pour moi elle a du sens. Et Voyage au bout de la nuit, comme ça vous savez qu'en devant vous, vous avez un semi-béotien en ce qui concerne Louis-Ferdinand Céline et aussi un pétochard en ce qui concerne la littérature, je ne m'en cache pas, voilà. Mais je ne suis pas fier d'avouer ça, je sais que je le lirai un jour parce que c'est important de toute manière, et votre adaptation au théâtre est d'autant plus intéressante à mes yeux, d'autant plus intéressante, disais-je, que ce texte, vous le faites jouer par une dame, une actrice.
Par une femme, oui, Hélène Firla, une grande actrice suisse qui a travaillé il y a maintenant un certain nombre d'années avec le grand metteur en scène Benno Besson. Elle était un des rôles essentiels de L'Oiseau Vert. Je cite ce spectacle parce que c'est un spectacle qui a tourné beaucoup en Europe. Mmh. En fait, contrairement à ce que vous me dites, je n'ai pas choisi Hélène Firla, c'est Hélène Firla qui m'a choisi. En fait,
racontez-nous ça.
Historiquement, Hélène devait travailler des lectures de Voyage au bout de la nuit. Elle avait mis en place un dispositif. Elle répondait en fait à une commande qui lui avait été faite à Ferney-Voltaire, la ville de Voltaire. La saison culturelle comprend un dictionnaire voltairien et le mot choisi dans le dictionnaire voltairien était le mot guerre. Et Hélène avait trouvé approprié de l'illustrer par des lectures de Voyage au bout de la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons très vite été au-delà de la lecture, dans la mesure où, s'agissant d'un roman qui se décline à la première personne, Bardamu raconte, il me semblait qu'il ne pouvait pas en être autrement que de chercher à incarner la figure de Bardamu. Et dès, je pense, le premier jour de répétition en Suisse, au bord de la Suisse, à Ferney-Voltaire, j'ai dit à Hélène qu'il fallait abandonner le concept de la lecture dans lequel elle avait engagé son énergie et qu'elle devait devenir Bardamu. Alors, il est clair qu'il y a eu un silence dans la conversation, mais que très vite, nous avons pris ce chemin et qu'elle m'a fait confiance, ce dont je la remercie énormément. Et nous nous sommes très vite, je pense, le deuxième jour, enquis d'un costume qui pourrait évoquer les dessins de Jacques Tardy, puisque Tardy a non seulement fait Adèle Blanc-Sec, mais il a aussi beaucoup illustré un certain nombre de récits de guerre, il en a même écrit, et il a fait les illustrations d'une édition Futuropolis, si ma mémoire est bonne, de Voyage au bout de la nuit. Et nous nous sommes inspirés complètement alors du personnage inventé par Tardy pour Bardamu, et Hélène porte donc costume noir, chapeau melon, gilet et godillot, et le travail s'est construit comme ça. Alors, l'avantage, si je puis dire, d'une interprète féminine pour le rôle, c'est que ça donne quand même, et à Bardamu et à la langue de Céline, une fragilité, une émotion qu'on n'aurait peut-être pas tout à fait de la même manière avec un acteur. Il y a, dans le travail fait avec l'actrice, la volonté d'une transformation du timbre de la voix, mais il n'empêche que tout ça n'est pas figé. Nous sommes dans le temps et le présent du théâtre, donc il ne s'agit pas de conditionner l'actrice de telle façon à ce qu'elle soit tétanisée, que du contraire, mais il est clair que Hélène travaille différents registres vocaux qui la font apparaître, en tout cas pour la plupart des spectateurs, comme étant un homme. On a eu des réactions de personnes se demandant pourquoi l'acteur avait été remplacé, puisque on lisait dans le programme qu'il s'agissait d'une femme, et alors que sur le plateau, on avait vu un homme. Donc, voilà, c'est
à ce point-là, elle pousse le mimétisme à ce point-là, d'accord.
Oui, enfin, en tout cas, les gens, certaines personnes le reçoivent comme tel. Elle est totalement transformée, mais vous savez, pourquoi pas, jusqu'à Shakespeare, les hommes avaient droit de cité sur les plateaux de théâtre et pas les femmes. Aujourd'hui, dans une édition du Festival d'Avignon qui en plus met en avant la question des genres, ce n'est pas très, novateur que d'agir ainsi. La question ne s'est pas posée, en fait, pour nous. J'ai devant moi un acteur féminin, c'est tout ce que je peux dire, ou une actrice.
C'était l'acteur qui convenait au rôle, de toute façon, si je comprends bien.
En tous les cas, j'ai pas d'avis a priori. C'est-à-dire que sur les rôles, c'est toujours l'acteur ou l'actrice qui me le révèle, en fait. C'est au travers de l'actrice, du travail, ou de l'acteur, c'est au travers de la relation qu'on entretient avec lui, que quelque chose naît, c'est lui qui incarne, c'est lui qui porte les mots, c'est lui qui expose sa viande tous les soirs sur un plateau. Donc c'est au travers de lui que la chose se constitue. Moi, je ne sais pas, par exemple, pour parler littérature, qui est Hamlet, qui est Treplev, par exemple, ou qui est Britannicus. Je pourrais peut-être le comprendre au travers de l'acteur que j'invite à me rejoindre pour travailler le rôle avec moi. C'est, comment dire, ça se passe toujours ainsi. Il y a une sorte d'alchimie qui fait qu'à un moment donné, l'acteur vous révèle ce que vous pressentiez ou ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Et c'est ça, probablement, qui fait l'intérêt du métier qu'on fait.
Mais là, c'est l'homme de théâtre en vous qui parle, Philippe Sireuil. Et si j'ignore comment Hélène Firla a elle-même découvert le texte de Céline, par contre, je peux me poser légitimement la question, en ce qui vous concerne, vous, vous l'avez adapté au théâtre. Donc, par rapport à cette collaboration avec une actrice, mais qui incarne aussi bien, sinon mieux, que ne l'aurait fait un homme, parce que finalement, la question ne se pose pas à ce niveau-là, point, c'est tout. Et par contre, vous-même, à quel stade de votre vie avez-vous découvert la prose de Céline et plus particulièrement ce texte au voyage au bout de la nuit?
J'ai un âge qui m'intarise à ne plus savoir à quelle époque que j'ai commencé à le lire.
Moi, j'ai parlé de la fin de l'adolescence tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question.
J'ai dû lire des bouts à la fin de l'adolescence ou un peu plus tard, et avant qu'Hélène Firla ne me téléphone, je ne pense pas avoir lu le livre jusqu'au bout. Donc elle m'a téléphoné il y a maintenant donc 4 ans. Je lui ai dit qu'en principe j'étais d'accord, mais qu'il fallait que je lise ou relise le roman, ce que j'ai fait en 3 jours. Mmh. Et à partir de là, j'ai travaillé. Voilà, c'est très simple, tout simple. Quand vous cherchez quelque chose, ben vous grattez autour de vous pour le trouver. J'avais le livre, je l'ai lu. J'en ai été complètement bouleversé, mais bouleversé évidemment au travers du trajet que Bardamu fait de la guerre 14-18 à une banlieue brouillardeuse parisienne en passant par l'Afrique et les États-Unis, mais aussi bouleversé par la qualité de la langue, tout simplement. Voilà, les mots, la littérature, la matière de la musique, de la langue, le rythme, la prosodie de la langue de Céline. C'est ce qu'on a. Enfin, voilà, ça, c'est autant de chocs qui font qu'à un moment donné, vous vous dites, ben, pourquoi pas, on va tenter, on va regarder ce que ça donne, c'est tout.
Tout simplement, je devrais suivre votre exemple. Alors, c'est un travail que vous avez commencé à partir de 2014. Oui. Donc, c'est un travail de longue haleine. Quelles ont été, où sont passées les premières représentations?
À Ferney-Voltaire, juste à
donc
côté.
Donc, vous l'avez raconté tout à l'heure, oui. Mais vous en avez fait tourner le spectacle avant d'arriver à Avignon.
Oui, depuis, nous l'avons joué à Genève, nous l'avons joué à Thonon, à Évian, si ma mémoire est bonne, à Bruxelles, à Genève 2 fois, vu le succès qu'il a engendré, à Bruxelles également 2 fois, et nous l'avons joué aussi à Namur en Belgique, nous venons de jouer au festival de Stavelot, toujours en Belgique, nous allons le reprendre la saison prochaine à Lausanne, à la Grange de Dorigny, et également à Bruxelles, toujours au Théâtre des Martyrs, dont je suis aujourd'hui le directeur artistique.
Voilà. Et là où je voulais en venir, justement, c'est que pour l'avoir joué dans différents lieux de la sphère francophone européenne, on va dire, pour résumer ainsi, la Belgique, la France et la Suisse romande, je ne peux pas empêcher de me poser la question suivante, c'est que la Belgique et la France sont des pays qui ont connu la Première Guerre mondiale, la Suisse ne l'est pas. Ce sont en Belgique, peut-être que la question de la collaboration et de l'antisémitisme ne se pose pas dans les mêmes termes que c'est le cas en France. Je l'ignore en grande partie, mais à mon avis, les problématiques sont un petit peu différentes. Et par conséquent, comment ces publics-là, qui sont certes tous francophones, qui ont tous la capacité d'apprécier la prosodie et le style inimitable de Ferdinand Céline, sa manière de décrire la violence en mots choisis, etc., etc. Et pourtant, du fait de l'arrière-plan culturel et historique, ils n'en pourront pas forcément tous la même réaction. Qu'en avez-vous pensé de votre côté ?
Moi, j'ai pas d'instrument de mesure de cette question-là. Je pense que le spectacle trouve à chaque fois des gens qui sont totalement bouleversés, d'abord par l'interprétation d'Hélène Firla. Son incarnation de Bardamu est, je pense, réellement saisissante. Et puis par ce que, au travers de Bardamu, on comprend de ce qu'est l'horreur de la guerre. Moi, j'appartiens à une génération qui, en Europe occidentale, ne l'a pas connue. Donc je ne peux pas imaginer ce que c'est que le bruit récurrent de shrapnel qui tombe à côté de vous, des choses comme ça. Céline l'a vécu et il le transmet d'une telle façon à ce que on ne peut qu'être bouleversé par ça. Voilà. Et je pense pas que... Alors, il est sûr que si on a soi-même connu des guerres, on peut recevoir le texte de manière encore plus percutante, mais que ce soit la Belgique, la France ou la Suisse, là, en tout cas, aujourd'hui, nous l'avons joué, nous irons probablement le faire aussi en Italie. J'ai pas, moi, constaté de différence, quoi. Il y a des gens qui entrent dans l'univers célinien au travers de l'actrice. Il y a des gens qui, ils sont moins nombreux, heureusement, qui n'entrent pas dans cet univers. Et tant mieux, on peut aimer la natation et pas le football. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça, quand même.
Et bah justement, vous nous emmenez un petit peu dans les eaux troubles en parlant de natation du voyage au bout de la nuit. Donc cette prose de Louis-Ferdinand Céline qui est jouée à 16h20 au théâtre L'Épicène. Alors comment ça se passe pour vous depuis le début du Festival d'Avignon? Vous êtes satisfait de l'affluence, du retour des gens, des réactions des gens?
Satisfait des gens qui sont là, oui. En plus, je n'ai pas à être satisfait ou pas satisfait.
Moi, non, mais je veux dire,
toujours quelque peu réticent. À l'endroit de cette grande foire qui est devenue le Festival d'Avignon. Je l'ai connu sous d'autres cieux, que je jugeais plus clément, en tous les cas plus raisonné. Mais bref, je ne vais pas parler de ça ici. Non, voilà, on est toujours quand même absolument ahuri de la soif de divertissement ou de connaissance parfois, mais de divertissement certainement qui habite les gens qui... viennent ici à Avignon peupler les, je crois, quoi, la centaine de salles ou un peu plus peut-être
dans ces eaux-là, de cet endroit-là.
Qui existe aujourd'hui, qui doit faire le bonheur des propriétaires. Mais voilà, on a de bons retours, on a des moments de rencontres assez puissants. Enfin, je parle surtout d'Hélène face aux spectateurs. Reste qu'il s'agit quand même d'une grande foire dont il faudrait peut-être... s'interroger sur la validité culturelle une bonne fois quand même. Voilà,
débat a lieu, soyez-en
sûr. Oui, je sais, j'en ai lu des extraits d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne peut avoir le frisson que quand on sait qu'en moins de 10 ans, on passe de 700 spectacles à près de 1600 cette année-ci. Quelque chose ne peut pas continuer ainsi.
Il y a une inflation qui est peut-être un petit peu déraisonnable.
Oui, mais en même temps, tout le monde a le droit d'y être, hein, c'est pas ce que je veux dire, et tout le monde a le droit de voir ce qu'il veut voir. Mais,
si le public suit, après tout. Mais les conditions de
d'après diffusion ce que je lis, quand même, d'après ce que j'ai lu de gens d'ailleurs de la région, ici, de metteurs en scène qui travaillent régulièrement, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de convaincre les spectateurs à venir en nombre que ce ne l'était il y a quelques années. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, Avignon, qui était une plateforme pour se faire connaître quelque part et donc pour pouvoir faire en sorte de tourner les spectacles qu'on venait ici produire en prenant énormément de risques financiers.
Tout à fait. Ils en prennent encore. Hein.
En espérant un return, bah que ce return aujourd'hui a tendance à plutôt diminuer puisque d'une vingtaine de représentations qu'on pouvait, semble-t-il, avoir espérer quand le spectacle était repéré, on est tombé aujourd'hui à 5. Les conditions de diffusion aujourd'hui sont beaucoup plus délicates qu'au préalable. Et je ne suis pas sûr, si vous voulez, que la multiplicité des initiatives soit forcément un signe de richesse.
Voilà. Trop de choix tue le choix, en quelque sorte, pour plagier un petit peu des philosophes à la petite semaine. Toujours est-il que parmi ces presque 1500 spectacles, il y a le vôtre, Voyage au bout de la nuit, auquel je souhaite, un spectacle qui existe depuis 2014 et auquel je souhaite encore quelques belles années de représentation, avec notamment cette actrice, Hélène Firla, et vous-même, Phyllis Serret, qui vous occupez de la mise en scène de cette adaptation du texte de Louis-Ferdinand Céline, dont la mentalité, j'ai l'impression, un petit peu retranscrit, rejaillit sur vous, puisque vous voyez le Festival d'Avignon dans ce qu'il a aussi de plus discutable, ce que faisait déjà Louis-Ferdinand Céline à propos de la société française dans ses écrits de l'époque.
Ah, écoutez, je préfère Alceste à Philinte, oui.
Et c'est la querelle des anciens et des modernes. Elle est vieille comme Hérode. En tout cas, merci d'être venu nous parler sur Osmose Radio de votre spectacle. Voyage au bout de la nuit, je le répète, tous les jours à l'Épicène à 16h20 jusqu'au 29 juillet. Et on va se quitter sur cette citation du roman, justement, qui résume certainement pas tout à fait la première partie qui se passe dans les tranchées que vous adaptez au théâtre, mais qui est tout à fait intéressante, qui disait « On est un puceau de l'horreur de la même manière qu'on est un puceau de la volupté ». Voilà, et c'est sur quelques mots, bien, je vous laisse méditer et je vous dis à bientôt, chers amis.